Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. Nous reviendrons en début de ce journal sur cet immense hommage populaire rendu hier à Johnny Hallyday alors que le cercueil s'apprête à quitter Paris, direction l'île de Saint-Barthélemy où le chanteur sera enterré. Johnny, qui ne souhaitait pas d'épitaphe sur sa pierre tombale, vous l'entendrez. Dans l'actualité de ce dimanche, la fin du Téléthon, cette nuit avec des promesses de dons en légère baisse en dépit du dévouement de nombreux bénévoles. À suivre la venue aujourd'hui à Paris du Premier ministre israélien et puis deux scrutins, l'un en Corse, l'autre au sein du parti Les Républicains. Et pour refermer ce journal, le bug des cartes grises, pas toujours facile à obtenir sur Internet, vous l'entendrez, suivi du journal des sports présenté par Jean-Pierre Blimeau. Côté météo, un programme un peu enthousiasmant avec des pluies verglaçantes à l'est, des risques d'avalanche dans les Alpes et des vents forts dans le nord. Prévision de Jean-Michel Golinski à 8h15.
France Inter.
Un cercueil blanc suivi par une veuve, Laetitia Trading, ne lâchant pas ses deux filles tenues par la main, des musiciens jouant de la guitare dans une église de la Madeleine pleine à craquer, des centaines de motards suivant le convoi funéraire au son de leur Harley, des milliers de fans massés le long du parcours, on parle de près d'un million de personnes, de l'émotion, des larmes, des chants aussi, des applaudissements nourris, telles seront quelques-unes des images que la France gardera de l'hommage populaire rendu hier à Johnny Hallyday. Des admirateurs connus ou inconnus, inconsolables, et qui entendent bien continuer à rendre hommage à leur idole, comme a pu le constater l'un de nos reporters, Thomas Tonnerre.
Jean-Philippe Smet est mort, vive Johnny Hallyday. Thierry habite en région parisienne et un hommage populaire comme celui d'hier, il en redemande.
Pour les anniversaires de sa mort, organiser des concerts sur écran géant, je pense qu'on aura la même ferveur. Moi, je serai là.
Continuer à célébrer Johnny pour combler le vide et la distance physique avec sa tombe. Le chanteur a choisi d'être enterré sur l'île de Saint-Barthélemy. Louisa regrette un peu de ne pas avoir un lieu près de chez elle où se recueillir.
Dans un sens, c'est dommage, mais dans un autre, il y aura les plus proches, sa famille, qui pourront se recueillir.
Mais elle espère bien un jour faire le trajet Montbéliard-Saint-Barthélemy avec son mari Dominique.
Pour déposer une fleur.
Se recueillir là-bas au moins une fois, quoi. Dans notre vie, quoi.
Les fans sont catégoriques. Eux vivants, on rendra hommage à Johnny, que ce soit aux Antilles ou à Rambouillet.
Moi, j'ai des amis qui font un tribute à Johnny et on va jouer vendredi prochain pour lui rendre un concert hommage.
Jouer la musique, écouter, réécouter la musique de Johnny.
Pour moi, il ne mourra jamais. Je continuerai à le regarder, je continuerai à écouter ses concerts, sa musique et à me défouler dessus.
Il y a une phrase, moi, que je tiens, c'est Jean-Philippe Smet, il est mort. Mais pas Johnny.
Les fanières sont venues dire au revoir à leur idole, au revoir et à bientôt.
Dans moins d'une heure maintenant, un avion privé emmenant la famille, les proches et la dépouille du chanteur devrait quitter l'aéroport du Bourget, direction l'île de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes. C'est là, sur ce petit caillou des Antilles, réputé pour ses lagons et son tourisme de luxe, loin de la métropole, dans le cimetière marin de l'île, que Johnny sera inhumé. Une cérémonie toute simple, dans l'intimité familiale, pour reprendre les propos d'un porte-parole de la famille Hallyday. Et si l'on se réfère à ces propos inédits tenus par le chanteur à l'un de ses biographes, Bernard Violet, il y a quelques années de cela, il ne devrait pas y avoir non plus d'épitaphe inscrite sur la pierre tombale.
Ouais, moi j'aurais beaucoup plus court, vraiment. Je dirais, rappelez-vous de moi comme un homme sincère. Vous savez, je n'ai pas la prétention d'écrire quelque chose, je crois que je n'écrirai rien du tout. Je pense que sur la pierre tombale, je ne marquerai même pas Johnny Hallyday, je marquerai Jean-Philippe Smet.
Pas d'épitaphe, donc, pas de Johnny écrit sur la pierre tombale, juste Jean-Philippe Smet. Telle est la volonté de Johnny Hallyday, enregistrée il y a quelques années de cela, par l'un de ses biographes, Bernard Violet, auteur de plusieurs ouvrages sur le chanteur dont Johnny le rebelle amoureux, paru chez Fayard.
Il y a deux scrutins aujourd'hui, l'un en Corse pour la désignation d'une collectivité territoriale unique, et puis l'autre au sein du parti Les Républicains.
Oui, un vote électronique qui a commencé hier soir pour tous les militants du parti Les Républicains et qui s'achèvera ce soir à 20h. Très déçus par la défaite dès le premier tour de leur candidat à la présidentielle, les adhérents LR, qui doivent donc faire le choix du président de leur parti, peinent à se remobiliser et redoutent une abstention record. Paul Barcelone.
Rassemblés dans un café, Jennifer et ses amis partagent un même sentiment. Pas facile d'être de droite aujourd'hui.
C'est la honte de la fac, être de droite et être jeune, c'est pas forcément compatible. Enfin, disons que les gens, ils vous regardent un peu mal, quoi. Ils sont là, bon, t'es de droite, bon, mais pourquoi ? Et le jour où on s'assumera vraiment, je pense qu'on rayonnera.
Mais pour rayonner, encore faut-il voter. Jennifer ira, bien sûr. Mais Paul est bien conscient que cette élection ne fait pas rêver.
Il faut partager plus de chaleur avec les gens. On aimerait un jour que ça redevienne à la mode d'être de droite. Parce que là, en ce moment, c'est compliqué de dire « je suis de droite ». Ah bon, t'es jeune, t'es de droite. Oui, il faut qu'un jour, ça redevienne stylé et on va y travailler.
Pour l'instant, c'est le blues post-présidentiel qui domine. LR s'apparente à un animal blessé, estime Jérémy.
C'est une bête blessée, si vous voulez, mais c'est une bête qui n'est pas morte. Je veux dire, on peut tous, voilà, vous avez beaucoup de sangliers qui prennent des cartouches, mais qui finalement
finalement, voilà, ne meurt pas pour autant.
Alors quel fauve pour relancer le parti ? Ces jeunes militants nostalgiques réclament un chef, un vrai, digne de ses prédécesseurs.
Un nouveau Chirac, voilà. Il a porté quelque chose, une âme à la France, un homme grand, élancé, qui en même temps n'hésite pas à pousser des grosses colères quand il le faut.
Laurent Wauquiez et ses concurrents sont prévenus, l'attente est immense. Si la participation ne dépasse pas les 50 000 votants, les débuts seront difficiles.
Laurent Wauquiez, Maëlle de Canon et Florence Portelli, tels sont les trois candidats à la présidence du parti Les Républicains. Premier tour de scrutin chez LR donc, et deuxième tour en Corse, la Corse qui va connaître la fusion de ces deux départements pour être gérée dès le début 2018 par une collectivité unique.
Une visite dans un contexte plutôt difficile, celle du Premier ministre israélien aujourd'hui à Paris.
Benjamin Netanyahou qui est attendu à la mi-journée à l'Elysée pour un déjeuner avec Emmanuel Macron. Une entrevue qui intervient en effet dans un contexte délicat depuis que Donald Trump a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Une prise de position contestée d'ailleurs par la France et qui depuis génère des tensions et des heurts au Proche-Orient avec déjà deux morts et des centaines de blessés à Gaza. C'est un Premier ministre israélien controversé qui arrive à Paris mais qui a quand même garde des soutiens sur place dans son pays. Le reportage à Jérusalem de notre correspondant Étienne Monin.
En période de trouble, le trottoir de la résidence du Premier ministre à Jérusalem est le lieu des manifestations. Aujourd'hui, personne n'a monté de tente et on entend des compliments dans la bouche de Tamar, habitante de Jérusalem.
On l'apprécie encore plus, pour sa diplomatie et pour l'homme.
Dans la rue, les personnes interrogées saluent la victoire diplomatique du Premier ministre, même si pour beaucoup c'est perçu comme une reconnaissance naturelle, malgré les critiques internationales, explique Tineret.
Bien sûr qu'on le soutient. On pense que Jérusalem est notre capitale, et peu importe ce que peuvent dire les capitales européennes ou arabes. Je ne sais pas, ça ne compte pas. On sait où est notre pays et où est notre capitale.
Mais le Premier ministre n'échappe pas à la situation intérieure. Il est visé par plusieurs enquêtes judiciaires qui polluent son action politique, estime Schlo.
Ça fait vraiment trop. On ne peut pas enchaîner les enquêtes comme ça, même sur sa femme, sans qu'il ne se passe rien. Il faut le remplacer.
Benjamin Netanyahou est une personnalité controversée en Israël, mais il reste le seul leader incontesté. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Les États de la Ligue arabe réunis au Caire demandent pour leur part à Donald Trump de revenir sur sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Retour en France où le Téléthon s'est achevé peu après 2 heures ce matin sur un montant de promesses de dons légèrement supérieur à 75 600 000 euros. C'est un petit peu moins que l'an dernier, après de 5 millions de moins à peu près. Une baisse sans doute imputable aux funérailles de Johnny Hallyday, mais rien n'est perdu puisqu'il vous est encore possible de faire un don en vous rendant sur le site afm-téléthon.fr.
Et pour refermer votre journal, Serge, on fait un point ce matin sur le bug des cartes grises.
Oui, vous n'êtes plus sans savoir que depuis début novembre, vous n'avez plus à vous rendre dans votre préfecture ou votre sous-préfecture pour procéder au changement ou à l'obtention d'une carte grise. Tout se fait désormais sur Internet, ceci dans le but de mettre fin aux interminables files d'attente et donc de gagner du temps, une intention louable qui malheureusement reste du domaine de l'intention car en réalité cela se passe encore pas tout à fait comme prévu. Illustration en Savoie avec Kristen Van Veen.
Pour les concessionnaires, tout serait réglé depuis mercredi. Ça va débloquer 22 000 cartes grises à l'arrêt sur les autos importées. Pour nous, l'automobiliste de base qui, par exemple, veut vendre ou acheter une voiture d'occasion, faut passer par l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, ANTS, comme Brigitte. Enfin, faut essayer.
Quand on nous dit sur le site « contactez-nous », donc moi, j'étais toute contente. J'ai dit « il n'y a pas de problème, je vais les contacter ». Et je leur fais mon mail. Et 5 minutes après, je reçois un mail type « si vous avez des problèmes, contactez-nous ».
Brigitte, de l'Automobile Club de Savoie, a priori, elle maîtrise. D'ailleurs, pour son collègue de bureau, en moins d'une semaine, ça a été réglé. Mais pour sa voiture à elle, la carte grise se fait désirer depuis le 1er décembre.
Quand on est devant ce site et que ça bug, c'est toujours le même message d'erreur. Votre dossier administratif ne correspond pas. Ce qui m'a été le plus dur, c'est de me sentir seule dans un tourbillon.
La roue de secours, officiellement, ce sont les points numériques dans les préfectures et sous-préfectures. Il y aura environ 300 demandeurs par semaine en Haute-Savoie. Pas d'afflux massif, selon les autorités. Sauf que cette aide ne résout pas tout.
Si vous n'avez pas de compte ANTS, c'est même pas la peine d'y aller.
Allez, on y croit. De toute façon, ça ne peut que s'améliorer.
Ça va s'arranger. On va être optimiste quand même.
Un reportage de Christophe Van Ven de France Bleu Pays de Savoie. Vous écoutez France Inter. Il est 8h09. L'heure de retrouver Éric Delvaux.
Merci Serge Martin. C'était le journal. Et bonjour Jean-Pierre Blimeau.
Bonjour Éric.
Bah, c'est l'heure des sports. Avec du football pour commencer, le PSG s'est rassuré contre Lille et Monaco a renversé la tendance contre 3.
C'est un PSG, en effet, encore convalescent, qui a dominé Lille hier soir au Parc des Princes. Après deux défaites contre Strasbourg et contre le Bayern, les Parisiens se sont imposés 3-1, mais sans convaincre à l'occasion de la 17e journée en Ligue 1. Un PSG qui reste largement en tête du championnat avec 9 points d'avance sur Monaco. Monaco qui, de son côté, s'est fait peur hier soir, mené 2-0 par 3, un promu. Les champions de France ont arraché la victoire 3-2. Après la lourde défaite de jeudi en Ligue des Champions face à Porto, Monaco, éliminé des coupes européennes, devait réagir sur son terrain. C'est fait, mais après beaucoup d'émotions, Leonardo Jardim.
Soirée avec un gros match, beaucoup d'émotions, beaucoup de buts, une belle remontade. Mais le plus important de dire ici, c'est aujourd'hui, nous regarder une équipe avec beaucoup de caractère, parce que ce n'est pas facile de faire ça. Je pense que le mot le plus important, c'est le caractère de l'équipe Monaco. Je pense que pour donner confiance aux joueurs, que c'est important pour une équipe avoir du succès. Mais je suis content pour l'équipe, parce que j'ai regardé une équipe avec le caractère, et pour moi, ça, c'est très important.
Voilà, Leonardo Jardim, hier soir à Monaco avec Dominique Poulain.
Monaco est toujours deuxième et Guingamp a réalisé le carton de la soirée.
En battant Dijon 4-0 à domicile, puis après 6 matchs sans victoire, Toulouse a réagi en s'imposant 2-0 face à Caen. Un partout entre Metz et Rennes, comme entre Angers et Montpellier. Angers et Metz d'ailleurs qui ferment la marche en position de relégable. Alors aujourd'hui, suite de cette 17e journée, à 15h, l'Olympique Lyonnais est à Amiens. À 17h, Nantes-Nice. Et puis à 21h, Marseille reçoit Saint-Etienne. 3 jours après leur qualification en Europa League, l'OM partage la 3e place du championnat avec Lyon et accueille une équipe de Saint-Etienne en difficulté. Des Verts qui n'ont pas gagné depuis 8 matchs.
La Coupe d'Europe de rugby avec Toulon qui a arraché une victoire précieuse et Castres qui a emporté le duel franco-français face au Racing 92.
Oui, des Toulonnais qui ont renversé la vapeur face aux Anglais de Basse, 24-10, en offrant un essai aux Britanniques qui ont longtemps mené avant que Toulon ne renverse la tendance dans les 10 dernières minutes. Castres, devant son public, a finalement battu le Racing 92 16-13 avec une pénalité en fin de match réussie à 3 minutes du terme.
Et dans cette Coupe d'Europe du rugby, entrée en lice de Clermont et de La Rochelle cet après-midi.
Clermont qui sera sur le terrain des Saracens de Londres à 16h15 et dès 14h, La Rochelle, le nouveau leader en top 14, en tête aussi de son groupe de Coupe d'Europe, va recevoir les Anglais de Wasps. Une victoire rapprocherait les Rochelais d'une qualification historique pour le club en quart de finale. Attention, prévient l'entraîneur de La Rochelle, Patrice Collazo, les Wasps possèdent de nombreux internationaux.
Quand on voit les noms qu'ils alignent, honnêtement, j'avais oublié qu'ils en avaient autant. Ça glace un peu, ça fait un peu froid dans le dos, donc je pense que nous, va falloir vraiment qu'on élève le curseur. Sur les vidéos qu'on a vues, c'est une équipe qui joue très très bien au rugby, quoi. Mais vraiment très très bien. Est-ce qu'on va être capable de le rééditer? Ça, je ne sais pas.
Voilà, Patrice Collazo, l'entraîneur de La Rochelle. Propos recueillis par Fanny Lechevestrier. Un mot de basket aussi, en Pro A, après sa victoire à Dijon 99-71, Monaco est toujours en tête du classement, suite aujourd'hui notamment à 18h30. Pau-Orthez reçoit Levallois.
On va parler du handball au féminin, c'est au Mondial et l'équipe de France qui va affronter cet après-midi la Hongrie en 8e de finale.
Ce sera à 17h30 à Leipzig. L'équipe de France partira favorite et semble bénéficier d'une voie dégagée jusqu'en demi-finale de ce mondial disputé en Allemagne. Alors encore faut-il ne pas se faire surprendre face à des Hongroises jugées plutôt rugueuses. Estelle Nzeminko connaît bien ces Hongroises. Elle joue d'ailleurs dans le championnat de ce pays toute l'année. Alors pour elle, le match est certes largement à la portée des Françaises, sauf que cette fois, c'est sans filet pour un match couperé en 8e de finale.
C'est une nouvelle étape dans laquelle on a clairement plus le droit à l'erreur du tout. C'est un peu plus de pression, mais en même temps, chaque match gagné est un bel échelon pour se rapprocher de la médaille, la plus belle, ou d'une médaille. Donc c'est quand même excitant, quoi. C'est sûr que nous, par rapport aux deux dernières sorties qu'on a fait, on aborde le 8e avec un peu plus de sérénité et de calme, quoi. C'est notre chance et il faut l'assumer. Et par contre, il faut faire le taf, effectivement, quoi. Après, si on se relâche parce qu'on joue des équipes un peu moins cotées, entre guillemets, en 8e, quart et demi-finale d'un championnat du monde, bon, on n'a rien à foutre ici, tu vois.
Voilà, reportage de Xavier Monferrand.
La Coupe du Monde de ski alpin avec cette belle victoire française hier à Val d'Isère.
Celle d'Alexis Pinturo pour le Critérium de Première Neige dans le géant de Val d'Isère, comme l'année dernière. Il a devancé l'Allemand Stefan Witz et l'Autrichien Marcel Hirscher. 20e succès en Coupe du Monde pour Alexis Pinturo et 2e donc à Val d'Isère consécutivement, Richard Vivian.
Cela faisait 11 mois qu'il n'était plus monté sur un podium en géant. Alors même sous la neige et dans le vent, et même si la phase de Bellevarde l'a lui aussi malmené, cette victoire devant le public français, Alexis Pinturo l'a savouré.
Je ne sais pas si on peut dire que c'est ce qui est de plus dur, mais en tout cas, c'est ce qui est de plus beau.
Et avec ce nouveau succès, le 20e de sa carrière en Coupe du Monde, Alexis Pinturo s'est rassuré.
Ça me permet d'être un peu plus confiant. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, on va continuer de travailler parce que cette année, elle est particulière aussi avec les Jeux Olympiques.
Une victoire et au total à 4 bleus dans le top 15 à Val d'Isère. Après le décès de David Poisson, il y a déjà presque un mois, c'était lors d'un entraînement au Canada. Ces résultats font du bien, concède le patron des équipes de France masculine de ski, David Chastan.
C'est un petit rayon de soleil, un petit rayon de soleil, mais un rayon de soleil. Il y a de la joie, mais il y a aussi de la peine. Voilà, j'ai une pensée toujours à la famille et à la maman de David. Et je pense que c'est un beau clin d'œil aujourd'hui qu'on a pu faire.
Et sur son compte Facebook, Alexis Pinturo a dédié sa victoire à son ancien coéquipier. Val d'Isère, Richard Vivion, France Bleu Pays de Savoie pour France Inter.
Puis le biathlon, Martin Fourcade toujours en tête du classement général, malgré sa 3e place hier en Autriche dans la poursuite. Et puis Stade Bleu ce soir à 19h, Jacques Gondroux reçoit Laurent Nicolin, président du Montpellier Hérault à 19h sur France Bleu.
Merci Jean-Pierre Blimaud, le temps de ce dimanche.
La météo avec les œufs fermiers de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Et c'est perturbé aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
De la pluie, du vent, voire pour la moitié est ce matin, de la neige ou des pluies verglaçantes sur des températures toujours négatives de moins 1 degré en Champagne-Ardenne, moins 2 plus à l'est, du nord de la Seine au centre avec 1 à 4 degrés, le redoux est amorcé, on trouve plutôt en début de journée un mélange de pluie et de neige, et plus à l'ouest, là c'est de la pluie avec 12 à 14 degrés sur la façade atlantique, 4 à 7 de la basse Normandie au Midi-Pyrénées, et avant le retour partout cet après-midi de températures larges largement positive, le risque de chaussées glissantes ou difficilement praticables persiste en début de journée sur la moitié est, notamment sur tous les départements maintenus en vigilance orange. En journée, au nord de la Loire, c'est un ciel d'averse qui va succéder à la pluie, mais plus au sud et à l'est, il va continuer à pleuvoir sans interruption et à neiger en montagne avec de forts cumuls sur les Alpes. Attention au risque d'avalanche. Notez que le vent sera partout turbulent, vers 80 km à l'heure en général, jusqu'à 120 cet après-midi sur la côte d'Opale, 100 sur le nord, le Pas-de-Calais et la Somme, placés en vigilance orange pour ces fortes rafales.